Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
L'agriculture, la protoculture, on peut à peu près dire que ça commence il y a 10 000 ans.
Cette semaine, histoire d'agriculture.
La machine à produire de la fertilité, c'est la forêt.
De la forêt primitive aux serres de plastique, l'instinct de survie.
Et donc chaque personne qui a un petit lopin de terre, il met en place du plastique et il met dedans un Africain ou un Marocain pour travailler. Parce que c'est vraiment les seuls qui acceptent ce travail.
L'agriculture arrive en Bretagne il y a 5000 ans, peut-être même pas 4000. Alors qu'elle existe depuis 10 000 ans, c'est-à-dire 5000 ans plus tôt dans le Proche et le Moyen-Orient.
Où est apparue l'agriculture à l'époque néolithique? Quand? Comment? Pourquoi? Comment l'agriculture, qui apparaît dans quelques endroits du monde, va se disséminer? Quels sont les mécanismes progressifs de la domestication? Plantes, animaux. Dans quelles conditions sociales, culturelles, cette transformation de l'état de nature proposé à l'homme va-t-elle s'accomplir? Ce sont là quelques-uns des thèmes que Marcel Mazoyer, professeur à l'Institut national de recherche agronomique Paris-Grignon, aborde dans la première des trois conférences qu'il donna à la Cité des sciences Paris-Villette en mars 2004. Et ce sont de larges extraits de ce cycle de conférences que nous entendrons cette semaine dans Histoire vivante, en prélude au nouveau documentaire sélectionné par Irène Chaland et Gaspard Lamunière, El Ejido, portant sur les conditions de travail des saisonniers maghrébins dans cette région du sud de l'Espagne, devenue le principal grenier agricole européen en hiver des fruits et légumes. L'essentiel de notre consommation est produit dans cette région, dans un système où les conditions sociales s'avèrent être des plus précaires, conditions sociales sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir en fin de semaine, en compagnie du réalisateur du documentaire El Ejido. Avant cela, c'est donc une semaine pour évoquer les conditions historiques de la naissance sur la Terre et du développement en Europe de l'agriculture qui seront abordées par Marcel Mazoyer, que nous remercions chaleureusement au passage, ainsi que la Cité des sciences de Paris-Villette pour nous avoir donné l'autorisation de diffusion. Aujourd'hui, première journée, intitulée « Les six foyers d'origine ».
Chapitre 1. Identification de naissances multiples.
Où est apparue l'agriculture à l'époque néolithique, l'époque de la pierre polie? Par foyer d'origine, Marcel Mazoyer entend des petites sociétés humaines qui vont passer de l'état de société de chasseurs-cueilleurs en société d'agriculture. Des foyers peu nombreux, établis sur des petites surfaces ne dépassant pas quelques dizaines de kilomètres de rayon et fort éloignés les uns des autres. Ce qui laisse entendre une constitution indépendante sur une période s'étalant entre moins 10 000 ans par rapport à aujourd'hui et moins 2 000. Des foyers qui vont se différencier les uns des autres par leur capacité pour certains à rayonner, tandis que d'autres resteront principalement stationnaires. Combien de foyers à travers le monde, Marcel Mazoyer?
à partir de chacun de ses foyers, tous d'une certaine manière ont rayonné, mais plus ou moins, à partir de chacun de ses foyers, l'agriculture s'est ensuite répandue dans toutes les directions, à une vitesse très faible. C'est de l'ordre, la progression des cultivateurs néolithiques venus du Proche-Orient qui ont conquis les côtes méditerranéennes au nord, les côtes méditerranéennes au sud de la Méditerranée, pénétrés en Europe continentale par la vallée du Danube, puis les vallées du Rhin, les vallées de la Seine et de ses affluents, et puis qui sont arrivés jusqu'au Finistère, hein, et qui sont montés jusque pas loin de la Taïga, vers le nord. Ces mêmes agriculteurs qui ont gagné la Sibérie dans les zones cultivables et qui ont rejoint les cultivateurs qui, eux, venaient de la Chine du Nord, ces mêmes cultivateurs d'origine proche-orientale qui sont allés jusqu'en Inde dans l'autre sens, qui sont allés en Afrique donc du Nord et puis qui sont descendus vers le Sud jusqu'à la zone tropicale, qui ont traversé le Sahara qui à l'époque n'était pas un désert, qui était une région semi-aride mais pas un désert, et qui arrivaient dans la zone soudano-sahélienne, eh bien, ont été de toute façon pratiquement obligés de cultiver de nouvelles espèces parce que les espèces d'origine proche-orientale ne convenaient pas, poussaient très mal sous un climat tropical. Et donc, et on pourrait dire qu'ils ont un peu piétiné entre l'Éthiopie et le Sénégal, ils ont un peu piétiné jusqu'à ce qu'ils aient domestiqué des espèces africaines grâce auxquelles ils ont pu continuer leur progression vers le sud et arriver jusque pratiquement en Afrique du Sud. Il y a 500 ans, l'agriculture d'origine proche-orientale avait pratiquement conquis toute l'Afrique, sauf qu'elle n'était pas forcément présente dans toutes les forêts équatoriales, difficiles à cultiver, à pénétrer, etc. Et elle n'avait pas non plus tout à fait atteint le cap, elle s'arrêtait à peu près à la hauteur du Mozambique et de l'Angola. Et donc le sud de l'Afrique, il y a 500 ans, n'était pas encore conquis par l'agriculture. De même que la taïga, la forêt de conifères du nord de l'Europe, n'était évidemment pas conquise par l'agriculture, elle ne l'est toujours pas beaucoup, et la toundra tout au nord ne l'était pas non plus. Donc on voit que cette agriculture, elle part dans toutes les directions et qu'elle va jusqu'à la limite, on pourrait dire, d'adaptabilité des espèces domestiquées dans le foyer d'origine. Et puis que quand elle arrive à des zones où ça ne marche plus, eh bien elle est obligée de commencer à faire la protoculture de nouvelles espèces et quelquefois de la réussir. Et alors elle continue sa marche ici dans la zone intertropicale. Alors on appelle foyer d'origine donc cette zone où naît l'agriculture il y a une dizaine de milliers d'années au Proche-Orient. On appelle aire d'extension tout l'espace dans lequel cette agriculture s'est répandu à travers les continents. On appelle aire secondaire de domestication la région dans laquelle, pour une raison ou pour une autre, on a domestiqué de nouvelles espèces qui n'étaient pas présentes à l'état sauvage dans la région d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on a domestiqué maintenant au Proche-Orient ? Eh bien, au Proche-Orient, on a domestiqué les espèces dont les Européens se nourrissent encore aujourd'hui à titre tout à fait principal. On a domestiqué les blés, qui étaient sous la forme à l'époque d'engrains sauvages ou de blé à mi-denier sauvage. On a domestiqué des orges sauvages qui sont devenues des orges domestiques, donc le blé et l'orge. On a domestiqué diverses espèces de pois qui ont donné le pois pas le haricot, hein, les petits pois, le pois chiche. On a domestiqué des vesses et des gesses qui ont été quelquefois consommées par l'homme. Et puis on a domestiqué un textile qui est le vieux textile des civilisations occidentales, qui est le lin, qui n'est pas du coton, qui n'est pas du chanvre, hein, qui est le lin. Les Égyptiens anciens se vêtaient de lin, hein, par exemple. Quand on va en Égypte, on voit ça. Donc voilà les espèces végétales domestiquées au Proche-Orient et qui se sont répandues en Europe, en Asie jusqu'à l'Inde, en Afrique, on va dire, jusqu'au climat tropical. Les espèces animales, c'est la chèvre sauvage, qu'on transforme en chèvre domestique, le mouton, un mouflon qu'on transforme en mouton domestique, le sanglier qui est domestiqué sous forme de porc, l'auroch qui est domestiqué sous forme de bœuf, et l'âne, c'est pas vrai. Il y avait des ânes sauvages dans cette zone, mais les ânes ont été domestiqués beaucoup plus tard, il y a à peu près 5000 ans, et pas forcément à cet endroit. Voilà. Donc, on va appeler ça un complexe culturel de plantes domestiques et d'animaux domestiqués qui permettent largement à une civilisation vivant de l'agriculture et de l'élevage. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de vraie civilisation agraire tant qu'il n'y a pas une céréale ou un tubercule qui fournit les glucides, les calories, tant qu'il n'y a pas des légumineuses qui fournissent des protéines et souvent un peu des graisses, et tant qu'il n'y a pas un textile. On va voir par ailleurs que ces trois éléments constitués sont à peu près indispensables pour qu'une société puisse vivre de ce nouveau mode de subsistance qu'est l'agriculture. Après cette domestication primitive dans les foyers d'origine dont on a parlé, il y a eu aussi des animaux domestiqués, non pas au hasard, mais au fur et à mesure de l'avancée des cultivateurs-éleveurs. Le cheval, dans les grandes prairies de l'Europe orientale, hein, qui vont de la vallée du Danube et de l'Asie centrale, ça, il a été domestiqué quelque part entre la vallée du Danube et on va dire presque la Mongolie. Le zébu qui est domestiqué quelque part en Inde, le dromadaire qui est domestiqué beaucoup plus tard en Arabie, le chameau domestiqué plus tard aussi il y a 4-5 000 ans du côté de l'Iran de l'Est et de l'Afghanistan. Bon, le yak dans l'Himalaya, le renne à la frontière de la Mongolie et de la toundra, hein, donc en Asie de l'Est. Donc voilà à peu près la mise en place géographique et historique de ce qu'on appelle la révolution agricole néolithique. C'est-à-dire la naissance de l'agriculture en quelques endroits et son expansion à travers les continents, dans les régions évidemment exploitables, cultivables ou dans lesquels on pouvait développer des élevages dans les 4-5 000 ans qui suivent.
Les six foyers d'origine. Chapitre 2. Quelle production ?
Avant l'agriculture, que se passe-t-il ? Ou plutôt, à quoi ressemble l'étape ultime avant le passage à l'agriculture, avant le passage à l'élevage ? Comment s'opère le passage entre le matériau, plantes et animaux de l'état sauvage à l'état domestiqué ? Il est ici question de protoculture, de proto-élevage. Période de long terme qui voit la naissance de la domestication à l'extension géographique de cette domestication. Ici, les événements relèvent d'un quotidien qui s'étend sur des millénaires. Des foyers d'origine datés de moins 10 000 aux foyers d'extension qui s'opèrent jusqu'à moins 5 000 ans, se répandant notamment en Afrique. Voilà pour l'extension du croissant fertile qui, en miroir, voit un mouvement sensiblement analogue s'installer en Asie ainsi que dans le continent sud-américain avec d'autres variétés de production. La propagation de la domestication de la nature se fait contre vents et marées, si l'on peut dire, ou parfois avec le concours de celle-ci. Comment et pourquoi passe-t-on à l'agriculture dans les foyers d'origine? Comment et pourquoi y a-t-il extension? Comment et pourquoi, enfin, y a-t-il domestication? L'humain n'est pas le seul acteur. La planète et ses cycles jouent aussi leur rôle. Marcel Mazoyer.
L'agriculture n'est évidemment pas une invention. Comme ça, je ne trouve plus assez d'animaux à chasser, je ne trouve plus assez de plantes sauvages à récolter, alors je vais faire de l'agriculture. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le foyer d'origine qui est le plus fouillé, le mieux connu, etc., et qui quelquefois cache le reste du mouvement à l'échelle mondiale, c'est le foyer proche-oriental. C'est évidemment là qu'on sait le mieux, il y a le plus de traces, le plus de fouilles, le plus de résultats qui permettent à peu près de se rendre compte. Premièrement, quelles sont les conditions dans lesquelles la protoculture commence à se manifester? Eh bien, ça se passe dans des villages qui sont déjà des villages de cueilleurs et de chasseurs sédentaires. Ce qui est manifeste, c'est que la sédentarité précède de beaucoup le passage à l'agriculture. L'agriculture, la protoculture, on peut à peu près dire que ça commence il y a 10 000 ans, c'est dans des villages qui étaient des villages de cueilleurs-chasseurs qui étaient sédentaires depuis 2 ou 3 000 ans. Comment, en gros, ça s'est passé? Il y a eu le réchauffement du climat suite à la dernière glaciation, réchauffement qui est à peu près acquis il y a 13 000, 12 000 ans, et avant ce réchauffement du climat, les populations qui vivaient là, c'était des populations de chasseurs de rennes, qui étaient dans un milieu qui était très froid et dans un milieu qui, un écosystème qui était quelque chose comme la toundra. La toundra aujourd'hui. À l'époque, la toundra se trouvait en Turquie, en Syrie, en Palestine, etc. Le réchauffement du climat se produit. La toundra, petit à petit, se transforme en un écosystème, on va dire, de savane boisée dans lequel on trouve une quantité de graminées sauvages, parmi lesquelles le blé sauvage, l'orge sauvage, etc., de légumineuses sauvages, etc., et dans lequel il n'y a plus de rennes qui sont là, mais il y a comme animaux sauvages la chèvre sauvage, le mouflon, le bœuf sauvage, etc. Toutes espèces qui sont précisément celles qui vont être domestiqués, et beaucoup d'autres qui vont pas être domestiqués. Donc on passe d'un climat et d'un écosystème de type toundra, dans lequel les peuples qui vivaient en s'abritant plutôt dans des grottes qu'en plein air, étaient essentiellement des chasseurs de rennes. La toundra remonte 4000 km plus haut, le climat se réchauffe, un écosystème, on va dire, tempéré, chaud de type méditerranéen se met en place, hein, savane à chêne et à pistachier, et une bonne partie des habitants des grottes chasseurs de rennes suivent les rennes. Et ils ont eu le temps, hein, ça a pris 2 ou 3 000 ans, ce processus de réchauffement, mais quelques-uns restent là. Ceux qui restent là, au fond, n'abandonnent pas leur côté, vivre de manière assez groupée, comme c'était le cas à l'époque de la chasse aux rennes. Ils vivaient dans des grottes. Mais ils sortent des grottes parce qu'ils n'ont plus besoin de ce genre d'abri et ils commencent à constituer des abris artificiels qui deviennent petit à petit des tout petits villages de cueilleurs, chasseurs, sédentaires. Alors pourquoi, alors que la préhistoire d'avant le néolithique était essentiellement une préhistoire de peuples chasseurs, nomades, qui se déplaçaient au fur et à mesure que les animaux ou que les ressources végétales étaient disponibles selon les saisons, on voit apparaître à cette époque-là, à la fin du paléolithique, au mésolithique et au début du néolithique, un nouveau mode de vie qui est un mode de vie sédentaire, mais dont on s'aperçoit qu'il n'est pas basé essentiellement sur la chasse au grand gibier, il est basé dans certains endroits bien particuliers sur la cueillette de plantes sauvages, très nourricière et très abondante, à savoir les céréales sauvages, les légumineuses sauvages. Donc ce sont des sédentaires, de nouveaux sédentaires. Ça n'existait pas vraiment beaucoup avant, sauf les cités lacustres et quelque chose comme ça. Et ce sont essentiellement des cueilleurs de céréales et de légumineuses sauvages. Et ils pratiquent, le cas échéant, la chasse au gibier, on va dire, de passage. Mais ils ne poursuivent pas ce gibier, ils ne vivent pas à la remorque de ce gibier. Et ces villageois sédentaires, finalement, on s'aperçoit que non seulement ils peuvent vivre en village, parce qu'ils sont passés à un nouveau mode de subsistance qui est la cueillette des plantes, qui sont relativement abondantes et qui peuvent nourrir une population relativement nombreuse sédentaire. Autrement dit, les prémices de la révolution agricole néolithique ne paraissent pas du tout être liées à une espèce de raréfaction générale du grand gibier. Ce sont au contraire des gens dont la sédentarité est possible et basée sur une abondance relative d'une ressource qui ne bouge pas, qui ne se sauve pas, qui sont précisément les ressources céréalières et de légumineuses sauvages. Et que font ces gens-là? Eh bien, on s'aperçoit qu'ils se spécialisent réellement dans ce genre de mode de subsistance. C'est-à-dire que leur outillage typique de cette époque néolithique-là, c'est un outillage spécialisé dans l'exploitation de ces ressources-là. Ce sont ces gens-là qui inventent les faucilles à microlithes, c'est-à-dire des faucilles qui sont constituées d'un arc de bois sur lequel on a fixé une succession de petites pointes de microlithes taillées, de petites pointes comme des petites pointes de petites flèches, qui constituent une espèce de scie à céréales, faucilles constituées comme scie à céréales. Ils font aussi des couteaux à moissonner sous forme d'éclats taillé de manière très particulière, comme une lame de couteau à moissonner. C'est-à-dire, il se fabrique un outillage spécialisé dans la cueillette des plantes, et non plus spécialisé dans la chasse au gros gibier. Donc, il y a spécialisation du mode de subsistance et spécialisation de l'outillage. Deuxièmement, c'est pas très digeste, les céréales sauvages et les légumineuses sauvages. Et donc, d'une certaine manière, pour que ça devienne digeste, il faut le cuire. Pour le cuire, quand on n'a pas de marmite, il faut en fait les broyer pour les transformer en farine, les délayer avec de l'eau et faire des boules ou des galettes qu'on va cuire sous la cendre ou qu'on va cuire sur une grosse pierre qu'on a chauffée dans un grand foyer. On peut cuire des galettes directement. Il y a encore des régions du monde où on fait les galettes comme ça. Hein. Vous allez en Iran, vous voyez, on cuit les galettes dans des grands fours où il y a des grosses pierres rondes sur lesquelles on jette la galette, on la retourne, etc., un peu comme une crêpe. Bon, tout un outillage destiné à broyer et à réduire les céréales et aussi les légumineuses en farine pour pouvoir en faire au départ des galettes. Et puis, le temps aidant, c'est pas le cas au Proche-Orient, mais c'est le cas dans d'autres foyers, on s'aperçoit que les gens inventent aussi la poterie. Alors la poterie, c'est pas une invention comme ça à la demande. On n'a pas inventé la poterie parce qu'on avait besoin de la poterie. On peut pas, quand on n'a pas une pratique, on peut pas inventer l'instrument de cette pratique. Mais comme on avait des foyers creusés et que dans ces foyers on chauffait des grosses pierres, on avait inventé tout simplement d'enduire ces foyers d'argile. Et une fois qu'on avait chauffé ces foyers, on les débarrassait des restes de bois ou de charbon et on les remplissait ou on mettait de l'eau dedans et comme le récipient ainsi constitué était très 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 chaud, eh bien on pouvait mettre des graines de céréales ou de légumineuses directement dans cette espèce de fausse foyer tapissé d'argile chauffé, on va dire presque à blanc, et qui permettait de cuire une céréale. Et puis enfin, ces habitants sédentaires, qui n'habitent plus dans des grottes et qui se développent à proportion des nouveaux moyens de subsistance qu'ils ont. C'est-à-dire, on a des villages au début qui mesurent 0,2 hectares et qui contiennent des maisons rondes. On estime qu'il y avait 40 ou 50 personnes qui vivaient là. Petit à petit, on voit ces villages s'agrandir. On voit même les maisons se tasser et passer de rondes et espacées les unes des autres. On les voit passer à être carrées et jointives, etc. On voit que le nombre de silos, et on estime que, bon, s'il y a 10 000 ans, les villages avaient une cinquantaine d'habitants, il y a 9 000 ans, c'est-à-dire une fois que le processus de passage à l'agriculture est achevée, on voit que ces villages étaient en gros 10 fois plus grands. Donc une population qui pouvait être de l'ordre de 500 habitants, voire davantage. Donc il faut prendre conscience que la sédentarité, les ressources abondantes et qu'on sait de mieux en mieux exploiter, cuire, rendre digeste, etc., ça conditionne une espèce d'explosion démographique. Les autres peuples de chasseurs-cueilleurs, plus ou moins nomades, ne sont pas, ont pas décuplé en 1000 ans. C'est un taux de croissance de la population pour l'époque tout à fait exceptionnel. Le fait d'avoir des ressources abondantes et d'avoir petit à petit mis au point les moyens de les exploiter fait que ça conditionne un formidable accroissement démographique. Autre chose qu'il faut dire, c'est que la pierre polie qui est concomitante de ce mouvement, mais elle paraît elle aussi, sinon indispensable, du moins très utile à cette transformation, parce que pour faire des habitats artificiels dans une forêt qui est une forêt de chênes, il faut pouvoir abattre ces chênes, il faut pouvoir les équarrir, en faire la charpente des nouvelles maisons, qui est une charpente sommaire, mais c'est une vraie charpente en bois dur. Et ça, avec des haches de pierre taillées, qui par nature cassent quand on tape dessus, c'est pas forcément la meilleure solution. Et si vous essayez d'abattre un chêne même modeste et de le tailler avec des haches et des herminettes en pierre taillée, il va vous falloir une hache et une herminette par chêne, quoi, par pièce de bois. Avec la pierre polie, vous pouvez prendre des pierres moins cassantes et quand même les rendre aiguisées. Et puis si jamais vous les ébréchez, vous pouvez les réaiguiser sans perdre un centimètre de tranchant, quoi. Tandis que si c'est par la taille que vous réaiguisez une pierre, une hache, ça va pas durer bien longtemps. Donc cette pierre polie à laquelle beaucoup d'auteurs n'attribuent aucun intérêt et aucune importance à l'époque, je pense qu'on se trompe.
Les 6 foyers d'origine. Chapitre 3. Gestion des crises.
On accumule les connaissances, les domestications d'une nature que l'homme sait rendre un peu moins hostile. On progresse minutieusement à force d'expérience, d'échecs et de nécessité. Parce qu'il n'est question que d'une chose de tout temps, survivre, l'homme du néolithique apprivoise les graines, les bêtes, la coupe du bois, renforce ses propres immunités, consolide son espèce en diminuant la mortalité. Il s'est stabilisé, sédentarisé, l'accompagnant, obéissant aux transformations qu'il lui impose, la nature elle-même connaît une évolution. Les graines domestiquées ne sont plus de même apparence que les graines sauvages. Parce qu'on n'utilise plus les germes originaux, mais ceux conservés des récoltes précédentes. On est bien entré de façon irréversible dans une ère d'agriculture. Un autre rapport au temps, à la durée, que l'humain fabrique et qui, de retour, le façonne à son tour. Ces connaissances elles-mêmes nous façonnent aussi à notre tour. De cette longue histoire des groupes humains, le récit n'en a pas toujours été le même. La nature des plus récentes recherches oblige à modifier l'ancienne interprétation des événements. Marcel Mazoyer.
Vous voyez déjà qu'on est très loin de l'idée que c'est parce que le gibier chassé à l'époque paléolithique ancienne s'est raréfié qu'on est passé à l'agriculture faute de ressources. On s'aperçoit qu'on est au contraire passé par une phase intermédiaire qui est la sédentarité qui, elle, est liée à l'abondance d'une nouvelle ressource sauvage qu'on commence à exploiter intensément grâce à la mise au point de tout un outillage spécialisé qui n'a rien à voir avec l'armement des chasseurs du paléolithique. Ce sont les outils de la cueillette des céréales et des légumineuses, de leur transformation, de leur cuisson, etc. Donc on voit que l'idée que il y aurait une espèce de raréfaction des ressources qui aurait conditionné l'invention de l'agriculture, c'est une idée fausse. C'est une idée grossière qui repose pas sur des observations suffisamment précises et localisées. Pour savoir pourquoi ça s'est passé quelque part, il faut vraiment bien regarder là où ça s'est passé. Et c'est pas moi qui ai regardé, c'est les archéologues, hein, etc. Mais, et c'est grâce à ce qu'ils ont vu qu'on peut dire tout ça. Hein. Alors maintenant, comment se fait, il n'empêche que il y a 10 000 ans, ces villages étaient des villages de cueilleurs, accessoirement chasseurs. Et il y a 9 000 ans, c'est des villages de cultivateurs, accessoirement chasseurs, mais déjà éleveurs, puisque 500 ans après, les espèces animales vont être domestiquées. Alors, comment et pourquoi ça arrive? Alors, ça c'est très controversé, parce que les archéologues ont tellement été échaudés avec la thèse des archéologues des années 50-60, qui était que c'était parce qu'il y avait surexploitation du gibier que les hommes avaient inventé l'agriculture et l'élevage, qui était une idée qui reposait sur rien, si ce n'est son apparente logique. Hein. Mais il n'y avait aucune espèce de trace archéologique démontrant que ça pouvait ressembler à ça ou pas. Même si... il y a des endroits où des peuples ont souffert de la raréfaction du grand gibier. C'est pas... Nul ne peut peut-être nier ça. Il n'empêche que là où ça se passe, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, cela dit, les archéologues, donc, échaudés par l'absurdité de cette idée apparemment juste, mais en fait qui s'est avérée tout à fait fausse sur le terrain, ils veulent pas rééditer l'idée que ça serait la raréfaction des ressources qui aurait amené les gens à faire de l'agriculture. Et que disent-ils? Eh bien, ils disent, si on regarde bien ce qui se passe pendant ces 1000 ans, où au départ, manifestement, les gens sont des cueilleurs, et où à la fin, manifestement, ils sont des agriculteurs, hein, nos deux pôles, il y a 10 000 ans, il y a 9 000 ans, et puis le grossissement de la population, tout ça, c'est eux qui le montrent, ils disent, il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas de trace de guerre d'un village à l'autre, il n'y a pas de traces, les squelettes qui diminuent, les gens qui auraient faim, des épidémies, etc. Il n'y a pas, au milieu de cette période où on était manifestement cueilleur au début et manifestement agriculteur à la fin, il n'y a pas de crise. Donc l'idée que c'est la crise des subsistances par la cueillette qui aurait conditionné l'invention, entre guillemets, sociale, collective de l'agriculture, n'est pas juste. Et je pense que il faut pas, ils ont pas envie de dire ça, donc faut toujours se méfier. Mais n'empêche, je crois qu'ils ont raison, parce que en réalité, ça se passe comment quand un village passe de 50 habitants à 500 habitants, quelque part au milieu, vers 150 habitants, 200 habitants ou 250 habitants, il y a bien un moment où, dans un rayon de 5 kilomètres, il n'y a plus assez de céréales sauvages et de légumineuses sauvages pour nourrir la population. Il y a forcément un moment assez. On ne peut pas nourrir un village de 500 habitants sur des ressources sauvages, fussent-elles abondantes à l'échelle d'un village de 50 habitants. Pourquoi cette impossibilité de nourrir une population qui s'accroît uniquement par la cueillette peut-elle se manifester sans donner lieu à une crise ? Bien, tout simplement parce que comment ça se passe? Les cueilleurs deviennent trop nombreux. Ils épuisent pendant les 15 premiers jours de la moisson sauvage, ils épuisent dans les 15 premiers jours ce qu'il y a à ramasser. Après, ils vont ramasser quelques épis isolés dans les coins, quelques gousses isolées dans les coins, voire ils vont glaner par terre. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où le temps de ramassage pour remplir son panier avant d'être dans la crise, avant d'être à la famine, au fur et à mesure que la population augmente, le temps qu'il faut pour faire manger tous les jours et faire ses réserves pour l'année va en s'accroissant. Et s'il n'y avait pas d'autres ressources, s'il n'y avait pas d'autres possibilités, le temps nécessaire pour nourrir une population qui continue de s'accroître deviendrait exponentiel et irréalisable. Alors, que font les gens dans cette situation? Eh bien, tout simplement, ils commencent à utiliser des ressources qu'ils connaissent, parce que ce sont des sédentaires, parce que ce sont des cueilleurs spécialisés, etc. Et ça fait belle lurette que des paniers d'épis ou de gousses rapportés à côté de la maison, ou au moment de l'égrenage, qu'il y a des grains qui sont tombés autour de la maison. et qu'ils ont poussé et sans doute les a-t-on déjà récoltés. Donc ça fait belle lurette qu'il n'y a pas besoin d'inventer le semis et la moisson de quelque chose qu'on a semé et récolté en cherchant même pas à le faire. Quand on a vécu 1000 ans comme ça, donc ils savent très bien que ce qui se sème tout seul autour de la maison, ça donne de très bons résultats. Alors on dit, ah oui, mais l'agriculture, ça va prendre plus de temps que la cueillette. Mais c'est faux. Ça, tous les archéologues disent. Mais c'est faux. Parce que ça coûte presque rien de semer une partie de la récolte autour de la maison, là où le terrain est tout près, de imiter la nature qu'on observe depuis des dizaines de générations, et de semer une partie de la récolte autour de la maison. Et puis, quand bien même ça prendrait du temps pour biner, empêcher que les mauvaises herbes, c'est pas du temps qui est concurrent du temps de moisson. C'est un temps de travail qui non seulement n'augmente pas la grande difficulté qui est de récolter ça pendant les 3-4 mois de moisson, mais au contraire, ça va vous permettre de récolter beaucoup plus vite, puisque les épis qui vont pousser là, ce qui va être semé là, ça va être beaucoup plus proche, ça va être beaucoup mieux fumé que dans la nature, à cause des déjections autour de la maison. Bref, le jardin que vous avez là, c'est quelque chose qui vous demande quelques précautions et quelques soins pendant le reste de l'année, mais qui va vous réduire de manière radicale le temps de moisson. Et si vous n'y arrivez plus par la cueillette de ce qui pousse tout seul dans la nature, vous allez y arriver tout simplement beaucoup plus facilement en détournant une partie de cette cueillette et en la semant dans les espaces défrichés d'avance, fertilisés d'avance, qui sont en fait des espèces de jardins qui ne portent pas encore ce nom-là. Et donc, quelque part, le passage à l'agriculture, à partir du moment où il y a un peu trop de cueilleurs, la population est un peu trop nombreuse, ben c'est une manière de continuer de s'approvisionner en gagnant beaucoup de temps. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise écologique. Il y a au contraire un gain de temps à la moisson par un détournement d'une partie de la récolte et du travail sur d'autres périodes et sur d'autres terrains. Donc quelque part, c'est l'économie du travail qui commande le passage à l'agriculture.
Un processus de domestication se repère sur le terrain. 1000 signes s'offrent que l'archéologue est le mieux à même d'interpréter. 1000 signes qui attestent de l'évolution du rapport de l'homme à la faune et à la flore. Résidus de graines, d'ossements, repérage méticuleux pour déceler les traces. Marcel Mazoyer.
Parce qu'on voit une multiplication des graines près des habitations. Des graines qui n'ont pas germé, des graines qui ont été conservées d'une manière ou d'une autre. Et ça signale le lieu où s'est produite la protoculture et ça pousse à formuler l'hypothèse qu'il y avait protoculture. Quand on voit le nombre de graines retrouvées autour des habitations augmenter de manière très significative, on fait l'hypothèse, les archéologues font l'hypothèse qu'il y avait protoculture. Deuxièmement, autre signe, les pollens. Quand les pollens, par rapport aux couches plus anciennes, donc aux époques plus anciennes, quand les pollens se multiplient anormalement en certains lieux, en particulier autour des habitations, mais on va le voir aussi ensuite en d'autres lieux éventuellement, on peut faire l'hypothèse que cet accroissement de la densité des graines, de la densité des pollens en certains lieux, c'est le signe que la protoculture avait commencé. Et puis, alors on est sûr que les gens, alors, ont sans doute cultivé, même si les plantes ne sont pas encore domestiquées, quand on retrouve des graines et des pollens d'une espèce en dehors de son aire d'existence naturelle. On fait alors clairement l'hypothèse que c'est les hommes qui ont transporté une espèce qui n'était pas présente là et ils ont commencé à la cultiver ailleurs. On voit des graines de blé sauvage, d'orge sauvage, etc., qui ne sont pas présentes, des plantes qui ne sont pas présentes là, on voit qu'on les retrouve en Turquie, on les retrouve en Afrique du Nord, on les retrouve ensuite en Europe. Donc, ça veut dire qu'elles ont été transportées et multipliées par les hommes, en dehors de l'ère naturelle de l'espèce. Proto-élevage, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand les ossements se multiplient rapidement autour des habitations, c'est le signe qu'on ne fait plus seulement appel aux produits de la chasse. Deuxièmement, les proportions des ossements de jeunes augmentent, c'est-à-dire que les agriculteurs qui proto-élèvent des sangliers sauvages ou des bœufs sauvages ou des mouflons sauvages, évidemment, ils abattent pas les reproducteurs. Ils abattent pas les femelles reproductrices. Ils ont tendance à abattre beaucoup plus les mâles que les femelles, puisque un mâle pour 10 femelles, ça suffira, donc ils garderont peu de mâles. Et donc, ils abattent pour manger, de préférence, les jeunes mâles. Alors, quand on voit la proportion des ossements de jeunes mâles se multiplier en un lieu, on est à peu près sûr que ça vient pas de la chasse, qui a une répartition des ossements intersexuels et inter-âges différente. Donc la multiplication des ossements de jeunes mâles, c'est un signe considéré comme à peu près manifeste, quand il est bien visible et qui est assez durable, que c'est pas un accident momentané, on est à peu près sûr que c'est parce que les gens ont les animaux en captivité. On glisse vers la domestication quand on voit que la taille des animaux, par contre, se réduit fortement. Ce qui est le signe que ces animaux sont beaucoup plus mal nourris qu'ils ne l'étaient dans la nature, ce qui n'est pas si étonnant que ça, parce que, nourrir des sangliers, il faut évidemment soustraire, on peut leur donner des débris de cuisine, des restes de consommation humaine, mais de temps en temps, il faut leur donner quelque chose. Bon, autrement dit, on les fait un peu crever de faim et ça finit par se voir dans leur taille. Deuxièmement, ils sont beaucoup plus inégaux que dans la nature, parce que dans la nature ne survivent que ceux qui ont passé un certain cap de croissance, de vigorosité, etc. Troisièmement, on voit apparaître des déformations osseuses en tout genre, qui sont le signe et de la malnutrition des animaux proto-élevés et quelquefois de carences graves, et aussi du fait qu'on les entrave, qu'on les empêche de courir. Les animaux en voie de domestication sont beaucoup moins vigoureux et en beaucoup moins bonne santé que les animaux sauvages. Ça, on peut dire que la domestication, pour les animaux, ça se joue dans le sens d'une péjoration. Il faut pas confondre avec les animaux du concours agricole aujourd'hui. Hein. Là, on a fait le travail dans l'autre sens, mais ça a pris beaucoup de temps. Et puis surtout, les animaux d'élevage, on retrouve sur les lieux de consommation, en général, des squelettes entiers, y compris les pattes, etc. Alors que les animaux produits de la chasse sont souvent un peu écourtés pour les alléger au transport. On les tue ou on les trouve, et puis en général on leur coupe les pattes, quelquefois on leur coupe la tête, on les éviscère. Autrement dit, là on va trouver des squelettes entiers sur place, près des habitations. C'est le signe, disent les archéologues, que ce sont bien des animaux qui ont été élevés et abattus là et non pas débités en morceaux avant de les transporter.
Foyer d'origine. Chapitre 4. Privatisation progressive.
Qu'est-ce que la domestication dès lors que toutes les espèces ne présentent pas les mêmes caractéristiques? Quel savoir-faire, quelles techniques vont permettre de passer à la domestication? Quelles conditions sociales et culturelles évoquent l'extension de la domestication sur la surface de la Terre? Quels signes, une fois encore, permettent de les approcher, de les appréhender, pour en raconter sinon une histoire complète, tout au moins un récit en pointillé. Le récit d'un mouvement qui se déploie en dehors des rythmes humains, qui s'étend sur des centaines d'années, des millénaires, qui modifie sensiblement la surface de la Terre. paysages et habitants, animaux et humains, graines et graminées. Et à quoi ressemble ce nouveau paysage? Un paysage qui progressivement, imperceptiblement par la loi de la sélection, s'uniformise selon l'intérêt humain. Marcel Mazoyer.
Première chose, c'est ce qu'on appelle la non-dormance des graines. Vous récoltez des céréales sauvages ou de n'importe quoi dans la nature, vous les semez à l'automne, aux premières pluies, hein, vous récoltez ça au mois d'août, vous semez ça à l'automne aux premières pluies. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, il y a une partie des graines qui vont germer à l'automne et une bonne partie des graines qui ne vont pas germer. Celles qui ne vont pas germer, elles ne sont pas forcément mortes ou perdues, elles vont germer éventuellement l'année suivante, ou quelquefois dans 2 ans, ou quelquefois dans 3 ans. C'est ce qu'on appelle la dormance. Les graines qui ne germent pas à la première saison favorable sont des graines dormantes, et qui se réveilleront, etc. Alors cette dormance est déterminée par des hormones qui empêchent la germination et qui sont localisées dans les enveloppes du grain. Maintenant, vous prenez une céréale sauvage, vous la semez, puis vous la récoltez l'été suivant. Puis vous la ressemez, vous la récoltez l'été suivant, vous la ressemez, vous la récoltez l'été suivant. Bien évidemment, ce que vous avez semé là autour de la maison et récolté l'été suivant, vous ne récoltez pas les graines, vous ne récoltez pas les descendants des graines dormantes qui ne germeront que l'année suivante ou dans 2 ans. Donc vous sélectionnez automatiquement des lignées, on va dire, de plantes qui ont tendance à se reproduire au premier coup. Puis au bout de N générations, eh bien, vous n'aurez plus que des graines non dormantes. Et par-dessus le marché, comme les inhibiteurs de germination, les substances qui empêchent la germination, sont contenues dans des enveloppes épaisses, eh bien, vous sélectionnez des céréales peu ou pas vêtues. Tac. Donc il y a un caractère il y a un caractère comportemental, c'est la non-dormance qui est sélectionnée, un caractère comportemental qui est la dormance qui est éliminée, et puis il y a les caractéristiques morphologiques attachées à ça, c'est des enveloppes épaisses qui existaient et qui disparaissent. Rachis, c'est-à-dire la tige de l'axe d'un épi, les pédicelles, c'est-à-dire les petites tigelles qui attachent le grain à l'épi, tout ça, ça va devenir solide. Parce que si vous avez des tiges qui cassent facilement, des rachis qui cassent facilement, des pédicelles qui cassent facilement, les grains tombent facilement, l'épi tombe facilement, les grains tombent facilement, tout ça, vous ne le récoltez pas. À moins de glaner après la moisson, mais vous avez tendance à récolter les épis entiers et les grains entiers. Enfin, qui sont tous présents. Donc, vous sélectionnez petit à petit des épis solides avec des grains bien attachés et tout ça. Et vous éliminez petit à petit ce qui, dans la nature, est un facteur favorable, qui est la facile dissémination des épis et des grains. Et au contraire, vous sélectionnez des céréales ou des légumineuses qui se cassent pas comme ça et qui s'éparpillent pas comme ça. Donc, vous sélectionnez des épis solides, des attaches solides, etc. Et vous sélectionnez un égrenage difficile. Deuxièmement, les céréales qui, à l'état sauvage, ont plusieurs tiges, plusieurs épis ou inflorescences d'un autre type, et qui mûrissent pas en même temps, vont être plus ou moins éliminées, parce qu'au moment où vous allez moissonner, vous allez prendre ceux qui sont mûrs, ceux qui sont pas mûrs, vous allez les laisser, ou en tout cas, ils seront pas assez mûrs pour donner des grains qui pourront être ressemés. Hein, et ceux qui seront trop mûrs, bon, il y a des chances que les grains soient tombés ou que les épis ou épillets soient tombés. Donc, le fait que vous récoltez groupé a tendance à éliminer ce qui n'est pas mûr et ce qui est trop mûr et donc égrené. Et donc, quelque part, vous allez sélectionner petit à petit des céréales avec un seul épi ou une seule inflorescence et non pas une multiple. Les maïs sauvages, la théosinte sauvage qui était l'ancêtre du maïs, elle avait une demi-douzaine de tiges avec des épis dessus. Bon, les maïs d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui font 2 épis. Pareil pour le blé, sauf si on l'a fait taler, mais c'est autre chose. Chaque tige, un épi. Hein. On l'a talé, c'est une reproduction, c'est comme une bouture végétative. Comme... D'accord. Donc, on sélectionne des céréales avec une inflorescence unique, relativement ou unique ou très peu nombreuse, et qui sont finalement riches en grains. Vous sélectionnez nécessairement les épis où il y a plus de grains que ceux où il y en a moins, puisque vous les ressemez davantage. Alors vous allez me dire, c'est miraculeux, on dirait que c'est plus pratique, ce qu'on sélectionne. Ben, vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce que le dernier caractère, c'est quand même le pire, quoi. On dirait vraiment que c'est fait exprès, quoi. Maintenant que vous semez vos grains de blé sauvages côte à côte sur un même terrain, et non plus au petit bonheur la chance dans une savane où il y a tout un tas d'autres espèces, et où une tige de blé, un plant de blé, va rarement être en concurrence avec un autre plant de blé dans la nature. Dans la nature, il va être en concurrence avec des plants de tout un tas d'autres espèces. Et donc... À un moment donné, ça va le pousser à être plus précoce ou à être plus tardif ou à être ceci ou cela. Hein. Eh bien, quand vous les semez côte à côte sur un même espace en les semant en même temps et puis en les récoltant en même temps pour les ressemer en même temps, eh bien, vous sélectionnez nécessairement les grains qui prennent le plus vite le dessus sur leur congénère. Blé, semé juste à côté, pas loin. C'est-à-dire que Vous mettez en place un système de concurrence intraspécifique et non plus de compétition multi-espèces. Eh bien, c'est les grains qui vont germer le plus vite et qui vont pousser le plus vite qui vont étouffer les autres. Alors, si vous faites dans votre jardin, vous n'allez pas trop avoir l'année prochaine ça. Mais si vous le faites pendant 500 ans, eh bien, à la fin, vous sélectionnez les grains qui germent le plus vite et qui prennent plus vite le dessus sur les autres. Et quels sont ceux-là? Ben, c'est ceux qui ont les réserves en sucre les plus abondantes, c'est-à-dire un albumène très important par rapport au germaine, qui lui intervient pas beaucoup dans cette affaire. C'est-à-dire que le fait d'avoir une grosse réserve de sucre dans le grain de blé vous donne une capacité d'hydrolyse de cet amidon qui est là, qui va nourrir la plantule et lui permettre de pousser des racines et des tiges et des feuilles avant même d'avoir commencé à faire sa propre photosynthèse. C'est la réserve qu'il y a dans le grain qui détermine la compétitivité de ce grain par rapport à ses voisins. Et donc, vous allez sélectionner des gros grains riches en sucre. Alors, ça n'a pas que des avantages, parce que plus ils sont gros et plus ils sont riches en sucre, moins ils contiennent de protéines. Donc, vous faites un blé domestique qui est moins riche en protéines que le blé sauvage, c'est clair. Mais il n'empêche que vous sélectionnez quand même un blé qui se casse pas, qui s'égrène pas avant qu'on vienne le récolter, qui a des épis plutôt uniques et bien nourris, plutôt grands et avec plutôt des gros grains. C'est comme ça. Si la céréale domestiquée, au fond, ne se portait pas mieux quand on la cultive que la céréale sauvage, ça serait quand même surprenant. Mais il se trouve que la céréale qui se porte le mieux quand on la cultive, celle qui est s'épanouit le mieux, ben c'est aussi celle dont le paysan profitera le plus. Si c'était le contraire, ça serait quand même étonnant. La céréale utile au paysan, c'est celle qui se porte le mieux quand il la cultive.
C'était Les 6 foyers d'origine, une conférence de Marcel Mazoyer donnée en mars 2004 à la Cité des Sciences Paris-Villette. Une mise en onde signée Anne Dicci. Demain, suite de cette rencontre avec les travaux de Marcel Mazoyer, une nouvelle journée intitulée « Développement et déforestation ».
Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc, avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat, Valérie Dantan et Anne Dicci. Vous pouvez nous écrire ou podcaster nos émissions sur notre site internet rsr.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Histoire vivante est en nouvelle diffusion à 18h sur Espace 2. Vous écoutez la première, il est 16h.